Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, une émission que vous commencez à connaître, des contes, ce sont des histoires plus ou moins longues, plus ou moins courtes, plus ou moins bizarres, plus ou moins étranges. Aujourd'hui, eh bien, on va partir dans un pays qui s'appelle l'Inde. Autrefois, on disait les Indes, comme s'il y en avait plusieurs. Et en fait, il y en a plusieurs, parce que c'est carrément un continent. Et puis, à l'époque, il y avait plein de royaumes, petits et grands. Et bref, on parlait des Indes. Donc là, on va partir aux Indes, si vous voulez, pour des vieilles histoires indiennes, à la fois issues de la tradition orale, comme issue du Mahabharata, ou bien la tradition populaire, souvent ça se mélange. Et oui, parce que pourquoi m'écrivent parfois les auditeurs, pourquoi raconter de si vieilles histoires alors qu'aujourd'hui, quand même, on a fait des progrès, la science a examiné les choses et une histoire, par exemple, qui explique que la mer est salée parce qu'on y a fait tomber un petit moulin qui ne s'arrête pas de tourner et de faire du sel, c'est un peu enfantin. Et à ce monsieur, je réponds que c'est vrai, on croit tout savoir, hein. On croit avoir tout compris, on croit avoir tout maîtrisé même. Mais en vérité, il y a des choses qui nous sont encore très très obscures. Par exemple, quelle est notre véritable nature ? Ben oui. Quelle est la nature du temps ? Le temps existe-t-il ? Et la vérité ? La vérité existe-t-elle? Eh bien, justement, les trois contes que je vais vous dire aujourd'hui parlent de ces trois sujets, notre véritable nature, le temps et la vérité. D'ailleurs, si vous me dites, mais parce que certains auditeurs l'ont fait, m'ont écrit en disant, mais oui, mais vous comptez des contes bizarres, étranges, vous devriez peut-être les expliquer pour qu'on les comprenne mieux. Eh bien, je leur ferai comme réponse la même que celle que fit un jour Bahandin Naqshband, qui était un conteur soufi célèbre. Un de ses étudiants lui dit « Tu nous racontes des histoires, mais tu ne nous dis pas comment les déchiffrer. » Et il a répondu « Que dirais-tu si un homme qui vient te vendre des fruits les consommait sous tes yeux, n'en laissant que la peau dans ta main ?» Voici les histoires. L'éducation du serpent. Non loin d'un chemin fréquenté, se tenait un serpent redoutable qui piquait à mort tous ceux qui passaient près de lui. Les habitants se rendirent en délégation auprès d'un sage pour se plaindre de la férocité de l'animal qui n'avait nullement besoin de tous ces meurtres pour survivre. Alors le sage se rendit auprès du serpent et réussit à se faire entendre de lui. Longuement, l'homme respectable fit sa remontrance à l'animal et lui expliqua qu'on ne trouvait aucune justification à sa conduite, dans aucun des trois mondes, et qu'il n'était par conséquent qu'une lamentable manifestation de ces forces de destruction qui trop souvent frappent et endeuillent la terre. Le sage trouva des paroles si profondes, des images si fortes, que le serpent fut bouleversé. La lumière se fit dans son cœur. Et il jura qu'il ne tuerait plus inutilement, qu'il serait un autre serpent. Et il tint parole. Le terrifiant reptile devint une sorte de long ver flasque, maigre, dépourvu de toute énergie, qui n'osait même plus avaler un insecte. Les villageois, vite oublieux du passé, finirent par se moquer de sa faiblesse, en disant « À quoi bon être un serpent ? À quoi bon ce venin et ces crocs ?» Quant aux enfants, ils lui jetaient des pierres en riant. après quelque temps de cette vie d'abstinence où la satisfaction de l'esprit et la paix du cœur ne parvenaient pas à contrebalancer l'extrême faiblesse du corps et toutes les blessures reçues, le serpent réussit à se traîner jusqu'à la cahute du sage à qui il raconta sa situation nouvelle.
« J'ai fait tout ce que tu m'as commandé. J'ai renoncé à ma vie criminelle. Mais j'ai l'impression de n'être plus moi-même car je ne soulève plus la peur dans le cœur des gens. N'étant plus craint, on me méprise et on me bat. Je me sens malheureux. Que peux-tu me dire ?»«
Ce que je peux te dire est bien simple, lui répondit le vénérable. Je t'ai interdit de piquer à mort sans raison et de t'attaquer à n'importe qui, d'accord. Mais t'ai-je interdit de siffler et de te montrer menaçant ? » L'homme qui était allé chercher de l'eau. Une histoire indienne extraite d'un méandre du Mahabharata. Deux hommes marchaient dans la campagne. L'un d'eux, le plus âgé et le plus fatigué, dit à l'autre « Je n'en peux plus, va me chercher un peu d'eau dans ce puits que je vois là-bas au bout du champ, je t'attendrai sous ces arbres à l'ombre. » Le jeune homme partit, traversa le champ et, parvenu auprès du puits, il y rencontra une jeune fille qui puisait de l'eau. Aussitôt, il se sentit irrésistiblement attiré par cette jeune fille. Alors il lui adressa doucement la parole et lui demanda son nom. Elle lui répondit avec un sourire. Un instant plus tard, il lui proposa de porter sa jarre d'eau jusqu'au village. Elle accepta. Au village, il fut invité à partager le repas dans la maison de la jeune fille. Il fit la connaissance de toute sa famille et finit par demander la main de celle qui l'avait conduit là. On la lui accorda. Lorsque la cérémonie du mariage fut accomplie, il se mit au travail dans les champs du village. Il eut deux enfants et s'occupa de leur éducation. Un d'eux mourut de maladie. Les parents de sa femme moururent eux aussi, un après l'autre, et il devint à son tour chef de famille. Son fils aîné se maria et quitta le village, où il revenait une fois par an. Puis sa femme, dont les cheveux avaient blanchi, fut saisie d'une fièvre inguérissable et quitta la vie. Il la pleura car il l'avait beaucoup aimée. Quelques jours plus tard, une soudaine inondation ravagea la campagne. Le paysan fut emporté avec les autres dans un large tourbillon d'eau boueuse. Il se débattait, il essayait de tendre la main pour saisir les cheveux de son plus jeune enfant qui se noyait sous ses yeux. Soudain, sans qu'il pût dire pourquoi, il se rappela son ancien ami, le vieil homme qui lui avait demandé de l'eau. Aussitôt, il se retrouva en terrain sec, traversa un champ, une jarre d'eau à la main. Il revint auprès du vieil homme, assoupi sous un arbre. Quelque chose dans l'air redevenu pur et léger semblait indiquer au paysan qu'il se trouvait au seuil même du grand mystère de Vishnu, le dieu qui maintient en place les mondes. Le vieil homme se réveilla et lui dit en se redressant
« Le soleil est déjà bas. Tu as été bien long. Je m'apprêtais à venir te chercher. »
Thank you.
Une histoire populaire indienne raconte qu'un jeune prince, galopant à travers ses terres, s'est pris à la passion d'une jeune paysanne et demanda aussitôt sa main. Mais le père de la jeune fille lui dit « Je ne peux pas te donner ma fille, car tu ne connais pas la vérité. Cherche-la, trouve-la, reviens et je te donnerai ma fille. » Le prince, bien sûr, sans attendre, se mit en quête de la vérité. Il la chercha partout, dans les champs, dans les forêts, au bord des fleuves. Il la chercha dans les villes et dans les déserts. Il demandait « Avez-vous vu la vérité ? La connaissez-vous ? Savez-vous où je pourrais la rencontrer ?» Partout, on lui répondait que la vérité n'était pas là. Oui, bien sûr, on l'avait connue autrefois, elle était passée par cette ville ou près de ce fleuve, mais sans s'attarder, sans rester longtemps, elle était vite repartie. Dans quelle direction? On ne le savait pas très bien. La vérité, en tout cas, était ailleurs, plus loin, toujours plus loin. Ici, disait-on au prince, on ne la connaît plus. Et le prince poursuivit sa recherche entêtée. Et cette recherche épuisante dura des années. À la fin, presque découragé, les cheveux déjà blanchis, il s'assit au sommet d'une montagne près de l'entrée d'une grotte. Il voulait se reposer un moment et se sentait presque prêt à abandonner sa recherche. À l'intérieur de la grotte, il entendit un bruit, une sorte de grognement. Il se leva, il s'approcha, l'épée à la main, craignant la présence d'un fauve, d'un ours, et il distingua une lourde silhouette sombre qui lui parut être celle d'une femme. Il entra dans la grotte où régnait une odeur fétide. Et là, accroupi sur le sol, quand ses yeux se furent habitués à l'obscurité, il vit, en effet, une femme, vieille et hideuse, couverte de pustules et de chancres, ridée, poilue, puante. Elle leva vers lui ses yeux glauques et lui demanda ce qu'il désirait. « Je cherche la vérité, » répondit-il. « Tu l'as trouvée, » dit-elle. « Comment ? Tu es la vérité ? » ?»« Oui. Mais est-ce que je peux en être sûr ?» Et elle lui donna des preuves. Elle savait tout de lui. Toute sa vie, tout ce qui était arrivé à ses parents, son nom, son âge, son aventure. Alors, il lui demanda « Est-ce que je suis le premier à te trouver ?» « Tu es le premier. » Après un moment d'étonnement, le prince ajouta « Je suis très heureux de t'avoir trouvé. Je vais pouvoir épouser la femme que j'aime si toutefois elle m'a attendu. Que veux-tu que je dise aux hommes à ton sujet ?»« Ne leur dis rien. Mais tous veulent te connaître. Ils vont m'interroger. Il faudra bien que je leur raconte quelque chose. Que leur dire ?» Alors la femme repoussante répondit au prince « Dis-leur que je suis jeune et belle. »
Fariat, kiamri mam kamal,
Tiens, voici Nasreddin qui est de retour. On ne l'avait pas eu depuis un moment. Alors Nasreddin, vous savez, il vit en pays musulman et il est souvent aux prises avec des règles assez bizarres. Écoutez plutôt. Quelqu'un découvrit un jour Nasreddin en train de prier debout, juché sur une seule jambe, comme un échassier. Un seau vide était à côté de lui. Quelle position pour faire sa prière ? Lui dit quelqu'un qui passait par là ironiquement. Tu vas sans doute prendre ton envol vers la Mecque. Chien de mécréant, répondit Nasreddin, tu ne connais rien aux prescriptions légales. Il y a seulement que je n'ai plus eu assez d'eau pour me purifier les deux jambes. Nasreddin trouve une poule morte sur le chemin. Il la met dans sa besace, comptant bien la faire cuire. Au moment d'arriver chez lui, il croise le kateb de la mosquée, auquel le renflement du sac paraît suspect. « Qu'as-tu donc là, Nasreddin ? Aurais-tu fait quelques emplettes dans un verger ?»« Oh, malveillant, j'ai tout simplement trouvé une poule par terre. » Aussitôt, le kateb se récrit véhément. « Cinquième sourate, troisième verset, cette bête morte est impure puisqu'elle n'a pas été tuée de main d'homme. » « Alors, d'après toi, » répond Nasreddin, en poussant sa porte, « le fait qu'Allah lui-même se soit donné la peine de la tuer pour moi ne suffit pas à la purifier ?» Compte à rebours, eh bien c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle à ceux qui voudraient réécouter cette émission, je rappelle qu'elle est rediffusée le dimanche à 18h, si ma mémoire est bonne, et que pour ce qui est de la diffusion en direct, quoique parfois je l'enregistre, je dois l'avouer, c'est le mercredi à 12h30. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Sur CFM Radio, bien sûr, vous pouvez aussi la trouver en podcast, et oui, parce qu'il y a un site internet où on peut télécharger toutes les émissions, ou quasiment toutes les émissions. C'était Marco, compte à rebours, c'est fini, à la semaine prochaine.